jour, nous accompagnons dans la rue Jan Spurk, sociologue, auteur de « Contre l'industrie culturelle » et c'est paru aux éditions Le Bord de l'eau.
Daniel, si je vous parle de culture post-bourgeoise...
Ouh là là, non, alors là, je... Non, je vais pas... Je peux pas vous dire grand-chose.
La culture est au service du capital ou au service de l'esprit humain?
Les deux. Mais aussi du capital.
Vous vous en rendez compte?
Oui.
Vous avez un exemple?
L'industrie du cinéma?
L'industrie du spectacle?
Oui, c'est l'industrie du spectacle. Mais dans le cinéma, ce qu'on a discuté, c'est mal poli parce que vous n'avez pas suivi la discussion, le même topo. Évidemment, les grandes productions cinématiques, mais même les films d'auteur, quoi, hein, vivent de fonds d'investissement, d'entreprises de production ou de banques ou de financiers quelconques, ça d'un côté. Et de l'autre côté, à mon avis, il y a aussi de la place, même dans l'industrie culturelle, pour de la création. Le cinéma n'est pas complètement, comment dire, stérile, il reproduit beaucoup. Mais il y a de temps en temps des films ou des vécus, quoi, disons, au cinéma, on dit, tiens, là, ça va au-delà, là, c'est du nouveau. Mais c'est du nouveau, ça me parle, disons, comme ça, c'est pas rabâché pour la 36e fois une histoire ou un argument qu'on connaît de toute façon. Ce qui est assez frappant, et que d'un côté, cette industrie du cinéma, une industrie culturelle tout à fait classique, comment dire, avalent beaucoup. Hein, ils se nourrissent de gens qui transgressent, quoi, qui, Tarantino par exemple, hein, qui est comme aujourd'hui une des personnes de cinéma commercial comment dire, les plus importantes. Mais il est dedans et dehors. C'est-à-dire qu'il alimente le renouvellement en faisant des films que personnellement, la plupart, en tout cas, de ces films, j'aime beaucoup. Quoi, hein, sont, ce sont des films qui transgressent, mais qui sont dans le... Et ça, c'est une... J'aimerais pas être dans sa peau, hein, pour tout vous dire, parce que pour prendre ça avec sa conscience, pour moi, ça poserait beaucoup de problèmes. Je ne le suis pas. Je suis le spectateur. Hein. Ça, comment dire, ça stimule. On ne voit pas toujours le même film. Aussi, ça aide beaucoup d'aller au troisième degré, quoi. Hein, de... Tout le monde se souvient de cette scène-là de Pulp Fiction, hein,
oui.
Avec le quoi, là, on a, comment dire, c'est devenu pour... avoir l'exemple d'une situation absurde, c'est devenu un grand classique.
Vous êtes nantaise, non ?
Pas du tout, Nantes, Paris, de la région parisienne. Paris.
Donc qu'est-ce qui vous a attiré sur Nantes ? La proposition du voyage à Nantes, des amis ?
Oui, des amis. Hein. On en profite pour faire une petite balade touristique et culturelle.
Et le château, pour vous, c'est...
Très joli. Oui, c'était assez emblématique aussi du patrimoine nantais.
Et qu'est-ce que vous connaissez de la culture nantaise ?
Pas grand-chose. Je ne connais rien de Nantes, je ne savais même pas le nombre d'habitants qu'il y avait à Nantes.
Quelle serait la bonne question à poser ?
Ah, la bonne question Je crois que la bonne question n'existe pas. Peut-être une question qui est un peu méchante, hein, si on tombe dessus, de dire « mais pourquoi ils sont là ?» Hein, c'est un peu la question, mais bon, quand c'est des touristes, la réponse est très, très vite trouvée. Quoi, hein. Qu'est-ce que les gens font là ?
Pourquoi vous êtes là ?
Parce qu'on est, c'est la première fois que je viens à Nantes et qu'on fait un petit tour de la ville. Voilà, donc on se balade dans les dédales des rues nantaises, on a fait la cathédrale et puis on vient voir le château, voilà, et on passe du temps avec mon copain que j'avais pas vu depuis longtemps, voilà.
Vous vivez à Nantes ?
Oui.
Quels sont les endroits culturels de Nantes que vous tenez à faire découvrir à Florence ?
Alors le parcours qu'on a fait, on a le marché de Talensac, après on est allé voir la préfecture, les bords de l'Erdre, donc on va faire le château, après on va essayer de voir si le musée est ouvert le samedi, ce qui n'est pas évident, donc voilà,
ah, c'est évident, un peu le parcours. Et puis Royal de Luxe.
Royal de Luxe, effectivement.
Royal de Luxe, ça
les machines.
Voir aussi, les machines.
Ça va être le parcours de la journée.
Voilà.
C'est important quand on visite une ville, d'aller visiter un musée. Alors la préfecture, je ne sais pas pourquoi.
Parce qu'on était sur les bords de l'Erdre, de proximité
du marché. C'était l'Erdre, c'était vraiment l'Erdre. Après, les musées, oui, c'est pas obligatoire non plus, mais c'est le plus. Après, ça dépend où sont en fonction des attirances.
Au fil de l'eau.
Oui, en fonction des envies ou pas. Hein. Peut-être qu'on ne fera pas et peut-être qu'on fera. Il faut se laisser porter par...
Toute la journée, toute la nuit.
Qu'est-ce que vous attendez d'un musée ? Votre approche est plutôt... Il y a quelque chose qui m'interpelle, une affiche ou un... Je sais pas, ce qu'on a entendu à la radio, par exemple, sur une exposition, ou le fait que le musée est là. Hein, donc, on y va comment ?
Par curiosité.
Ouais, c'est un peu des deux. C'est où, en général, moi, là, j'ai pas eu le temps de regarder. Mais quand je vais visiter une ville, je regarde ce qu'il y a à voir. Et puis, en fonction de, moi, je suis plutôt plus peinture, donc en fonction et plutôt contemporain. Donc, si il y a un musée sur ça, ben, je vais aller voir pour créer des émotions, pour faire plaisir. Après, c'est l'occasion qui fait là. L'histoire du monde à travers Nantes, vu que j'ai qu'une journée à Nantes, c'est pas automatiquement ce que je vais aller voir comme ça. Non, je me dis non, je vais pas aller voir le musée de l'histoire de Nantes aujourd'hui. Je le ferai peut-être une autre fois quand je reviendrai, mais c'est pas la priorité de la journée, non. Puis ça me dit pas plus que ça.
Ce que vous attire, disons, dans... J'exagère un petit peu le monde de l'art, quoi. C'est l'aspect contemporain, quoi.
Puis après, des émotions.
L'histoire de Nantes, ça ne vous crée pas d'émotions.
Si, mais ce n'est pas ma priorité. Voilà, ce n'est pas une priorité.
La question perfide, Yann Spurk, c'est est-ce que, finalement, vous vous laissez porter par les messages des télévisions, des radios, qui vous invitent à aller découvrir une exposition, alors que, naturellement, s'il n'y avait pas une campagne de publicité, ce serait comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y aurait d'autres priorités.
Bah exactement. C'est sûr que tous les messages sont super importants. Moi, je vais souvent à Paris. C'est vrai qu'à travers le métro, je vois « Ah tiens, ça, je savais pas qu'il y avait ceci, ça avait cela. Bah tiens, j'irais bien voir. » C'est grâce à ça aussi qui fait que...
Oui, mais là, vous le savez, là.
Ouais,
sauf que ce n'est pas porté par une grande affiche dans un métro
ou un
message radiophonique ou télévisuel. Ouais.
Mais je me dis peut-être que ça aurait pu me tenter en me disant « Tiens, Patrick, tiens, j'ai envie d'aller voir ça. »
On vient de le découvrir à l'instant, on ne le savait pas avant. Donc...
Mais non, ça me dit pas aujourd'hui d'aller voir l'histoire du monde à travers Nantes.
Pour moi, la culture bourgeoise, d'abord, c'est une expression pas du tout péjorative, du tout, qui décrit la culture, donc l'expression de projets de société, de vécu, des sentiments d'une société qu'on appelle bourgeoise, parce qu'il n'y a pas d'autre mot en français pour le dire. On devrait dire plutôt des citoyens bourgeois qui ont pris connaissance et qui ont eu prise sur leur vie, leur société, leur ville qu'ils ont structurée, hein, qui ont fait une société à leur image. C'est jamais complètement réussi, quoi, mais comme ils ont pensé la société, dans la peinture, ou dans la littérature plutôt. Dans la peinture, c'est un peu plus compliqué. Dans la littérature, admettons du deuxième partie du 19e, je mets dans l'eau aussi les romantiques, surtout français, jusqu'à la Première Guerre mondiale, là, je trouve des énormes œuvres d'art, quoi, que je qualifierais de culture bourgeoise. Une fois de plus, c'est pas du tout péjoratif. Cette société n'existe plus. La culture qui correspond à la société non plus. Et donc, c'est l'industrie culturelle qui a pris le pas. C'est ce qui domine. Hein. Il y a aussi d'autres formes de culture et d'art, évidemment.
Mais vous dites qu'elle n'existe plus, mais... On en a aperçu une qui est en train d'être installée dans la cour du château.
Cette installation, pourquoi ce serait de l'art, dans ce sens, de l'art bourgeois ? Ce que je vois dans cette installation est justement qu'elle provoque une réflexion ou un sentiment aussi de malaise, vous devez vraiment le voir, ils sont en train de le faire, qui concerne un phénomène extrêmement pesant, les migrants. Pas la migration, mais les migrants, et qui nous donne à penser quand même sur les limites de notre société. C'est que, comme tout le monde sait, c'est que faire dans cette situation ? Que faire ? Et la réponse n'est pas encore trouvée. Donc elle va au-delà de ce qui est la société d'aujourd'hui. Hein. S'il y a des millions de gens en déplacement, le résultat ne sera pas le monde tel qu'il est aujourd'hui. Ça, pour moi, faut l'évidence. Quoi, hein. Mais ça mène où ? Et ça, c'est une question que cette œuvre provoque en moi. C'est du contemporain, c'est du post-bourgeois, si vous voulez.
Et en quoi la culture industrielle pose problème ?
Qu'est-ce qui vous pose problème ?
L'industrie culturelle. La plupart des gens vivent très très bien avec ça, hein. Aussi bien ceux qui font cette culture que ceux qui la consomment.
Elle se traduit comment ?
Dans la marchandisation croissante, qu'on voit aussi par exemple dans les musées, de ce qui est culture, dans la standardisation et dans un nivellement, dans le sens propre du mot, d'une médiocrité. Donc d'une moyenne. Hein.
Et mais concrètement,
vous parlez de tout ce qui... Ah, comment il s'appelle cet artiste ? Oh, j'ai un trou. Celui qui a reproduit les Marilyn Monroe, qui a reproduit les, tout ça.
Comment, Andy Warhol.
Voilà, Warhol, c'est ça. Vous dites que le fait d'avoir stéréotypé un peu et d'avoir poussé au consumérisme au travers de cet artiste, où on trouve des trucs de Andy Warhol partout, des assiettes, des tableaux. Tout le monde a essayé Andy Warhol à la maison, quoi, je veux dire. C'est ce côté-là que vous parlez, le consumérisme autour de l'art.
Oui, et ce qu'il est devenu l'acte, comme on dit, du créateur qui était Andy Warhol, c'était la transcription par des moyens qui aujourd'hui nous semblent assez familiers, quoi, hein, on connaît, de peindre, de chercher la caricature, et le résultat, je ne fais pas un procès d'intention à Andy Warhol parce que je connais pas ses intentions, mais le résultat, une marchandisation, comme vous dites, oui. Ça se trouve des soucoupes, quoi, des t-shirts, des, je sais pas trop.
Oui, il y a tout voilà. Ça, oui. J'ai pris l'exemple d'Andy Warhol, mais il y en a plusieurs. C'est peut-être aussi aux gens de se donner l'impression de s'approprier l'art, s'approprier une œuvre, s'approprier un peintre ou un artiste qu'ils aiment. C'est peut-être une façon pour les gens de se dire ben, « j'ai un petit peu de lui chez moi aussi
pour, ». Mais pourquoi on n'irait pas dans un musée, par exemple, où il y a l'œuvre de Warhol, dire « bon, ça me parle pour une raison qui vous appartient et je me prends l'après-midi pour rester... je sais pas, une demi-heure, 20 minutes, le temps qui m'est agréable devant cette œuvre pour avoir un rapport avec lui et pas avoir la réplique. Donc posséder.
Oui, oui.
Et on possède du toc au fond. Hein. Si on a un tableau au musée et le poster à la maison, même si cela a très bonne impression,
oui,
c'est pas l'œuvre. Hein.
Une petite Joconde dans ses toilettes qui nous regarde. Prends un grand popo, là, ça peut être bien.
Oui.
Bon, ça dépend du goût, peut-être. C'est pas le mien.
Non, je plaisantais.
Bah, oui, peut-être, mais chez nous, on a dans les toilettes des tableaux. Ce sont pas des Jocondes, mais c'est une...
Des pièces uniques. Vous avez des pièces uniques dans vos toilettes.
C'est pas... si, si, absolument. Bon, mais ce sont pas des chefs-d'œuvre, je veux pas dire ça. Ça fait partie de ma vie, quoi.
Oui,
si vous voulez,
c'est
hein.
Votre univers.
Ouais,
c'est
quoi, de l'air abstrait, ça m'intéresse, mais qu'est-ce qu'on affiche dans ces toilettes ?
D'abord, on a des tableaux partout, donc c'est une question très pragmatique aussi. Nous, ce qu'on affiche. Oui, il y a. Je suis en train de réfléchir, là, il y en a trois. Il y a un portrait et deux abstractions. Mais c'est ma manière ou notre manière, je ne vis quand même pas seul, de nous approprier notre vie, quoi, notre espace de vie.
Oui. Hein et, oui, que votre espace de vie, bah, il est à vous et qu'ailleurs ce sera un autre.
Ouais. J'imposerai à personne de mettre des tableaux dans ses toilettes.
Quelle était votre intention de départ ?
Ce livre, c'est vraiment... je suis en train de réfléchir, ça fait 5-6 ans que ça mijote, sinon plus. Un des résultats, des discussions, c'est peut-être déjà trop structuré d'appeler ça discussion, d'échanges entre collègues, entre amis, entre camarades aussi qui ont une activité militante, qui partent toujours du même constat, de ce malaise qu'on vit, de ce malaise dans notre société, d'un côté, de l'autre côté, cette importance et le poids de la question de la liberté.
Nous accompagnons dans la rue Yann Spurk, auteur de « Contre l'industrie culturelle » et c'est paru aux éditions Le Bord de l'eau.
La liberté qui est mobilisée pas toutes les branches de l'industrie culturelle. Hein. On se souvient quand même de la pub de McDo, hein. Venez comme vous êtes. C'est une version très très commerciale, mais quand même pertinente de faire appel à la liberté. Et l'autre côté, les vécus, qu'on est soumis à des pressions, à des forces extérieures, donc des hétéronomies qui agissent sur nous. Et c'est une contradiction qui est palpable presque. Hein. Et à partir de là, j'écris le livre tout seul, quoi, donc je prends toutes mes responsabilités pour ce que j'ai écrit, mais c'est vraiment une discussion assez diffuse aussi. Je me suis penché sur cette question classique, on revient au point de départ de notre discussion, qu'on trouve vraiment dans les grands classiques, même des Lumières, surtout même des auteurs des Lumières. Comment créer ce qu'on appelle aujourd'hui le lien social? Dans le dictionnaire Diderot et d'Alembert, on parle du social, c'est même peut-être plus correct comme expression, parce que il faut, c'est une nécessité, il faut que les acteurs se retrouvent, qu'ils se lient, parce qu'il n'y a plus d'ordre divin ou quelque chose de préétabli. Et ça nécessite un espace public, qu'ils se retrouvent. Et c'est pas l'espace public, c'est pas l'harmonie où on discute calmement, je sais pas, comme une discussion de séminaire à l'université, c'est pas du tout ça. C'est là où les opinions se retrouvent d'une manière plus ou moins conflictuelle, en général même très conflictuelle, mais où il y a délibération. D'en sort, c'est pour telle et telle raison qui me conviennent peut-être pas, mais je suis minoritaire, ou qui me conviennent, qu'on va développer la cité dans un sens, comment dire, déterminé. C'est l'image d'Épinal, un peu des Lumières, un espace public. Et cette production de sens et de projet et d'explication, de compréhension de la vie en société, je fais un grand saut dans l'histoire, et depuis, disons les années 20 peut-être du 20e siècle, est prise en charge par l'industrie culturelle, hein, qui explose aujourd'hui, hein, explose dans le sens qu'elle se développe de partout. D'où ce livre, quoi, hein, qui développe une critique de l'industrie culturelle, c'est pas une dénonciation, mais de tâter aussi cette ambiguïté qu'on a vue là, souvent, de possibles, disons, d'opportunités et de possibilités qui existent aujourd'hui, mais qu'on doit découvrir dans le sens propre du terme, il faut enlever des couches, hein, et qui nous laisse devant le choix, qui n'est jamais arbitraire, mais un réel choix, comment nous voulons vivre demain, et cette affaire. Donc ce malaise et ce fatalisme qui dominent depuis des années nos sociétés, c'est une manière de vivre mal, mais de vivre dans notre société. Voilà, et c'est l'argument qui structure ce livre, de regarder où sont les contradictions, où sont les possibilités pour, trouver trois, schématisons quand même assez grossièrement, trois avenirs possibles, hein, que je vois, soit on prolonge la situation actuelle, que ça continue à mijoter de malaise en malaise, des petits hauts, des grands bas, et ainsi de suite. Soit, comme on a vu tout à l'heure, une réponse extrêmement autoritaire, la structuration de la société. Je vois beaucoup de signes qui vont dans ce sens-là. Ou troisièmement, ce qui serait le plus sympathique, pour le dire comme ça, peut-être pas le plus probable, mais le plus sympathique, de se servir de ces potentiels, on doit parler au pluriel, de créer consciemment d'autres formes de vivre et travailler ensemble qui sont plus libres, je dis plus libres, qui restent maîtrisables parce qu'on les a décidés. On peut revenir sur certaines décisions parce qu'il s'avère que ce n'était pas la bonne, ainsi de suite. Voilà, donc se construire un avenir qui est, pour reprendre le titre des romans de Sartre, qui sont des chemins de la liberté, hein, des chemins de la libération, on devrait dire plus concrètement, parce que c'est qu'un processus. Ce n'est pas le paradis pour demain, l'enfer non plus, mais ça c'est un effort qui est la troisième possibilité, une fois de plus la plus sympathique pour moi, mais il faut le vouloir, il faut le faire.
Merci à Yann Spurk, auteur de Contre l'industrie culturelle, et c'est paru aux éditions Le Bord de l'eau, et à
Daniel,
Florence,
Patrick
pour leur libre participation à ce reportage.
Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure d'interview en marchant dans la rue?
Ce que je retiens, d'abord, je trouve ça extrêmement agréable. La première fois que je l'ai fait, par ailleurs, de faire un entretien en marchant. Agréable parce qu'on croise des gens. On est dans la vie. C'est pas une mise en scène de studio. Et en plus, on a un vrai entretien quoi, qui suit le fil de la réflexion qu'on mène. Donc c'est pas de cocher quoi, 2, 3, 4 questions. C'est un vécu quoi, que j'ai beaucoup aimé.